soir, c'est d'abord un honneur pour moi d'être invitée ici et c'est aussi un plaisir de pouvoir partager avec vous cette question qui est au cœur de mes recherches, puisqu'il s'agit de vous parler ce soir du jeu de mots, des jeux de mots dans le slam. Et vous comprendrez dans un instant mon sous-titre, du méli-mélo à la mélodie, j'y reviendrai parce que je vous ferai écouter un texte qui m'a en fait inspiré ce sous-titre. Alors, poète debout, les slameurs marchent mots dans la main. Je reprends ici la formule d'un slameur qui s'appelle Rouda. Il les appréhende dans leur matérialité, leur texture sonore dont ils jouent à l'envi, pour leur donner vie sur scène, dans un café ou dans un autre lieu propre à accueillir un attentat verbal, ou encore, je cite ici un slameur lyonnais que je vais vous faire écouter dans un instant, un attentat rhétoriste. Et vous avez reconnu ici, dans ce premier jeu de mots, ce qui s'appelle une métathèse, en fait, avec l'inversion des syllabes par rapport à l'attentat sur terroriste. Alors, les slameurs offrent des vers en échange d'un vers, un nouveau jeu de mots qu'on retrouve dans beaucoup de descriptifs d'une scène slam. Et c'est bien le principe d'une scène slam dans la lignée du club des hydropathes qui, un siècle plus tôt, s'adonnait déjà à ce partage autour des mots. Dans la lignée du chat noir aussi, dont vous avez sans doute entendu parler, des carabarets urbains tels que les noms encore malades. Alors, lors de ma recherche en thèse, j'ai mené une enquête auprès des slameurs, slameuses et slamophiles pour faire émerger les représentations autour de cet objet potentiellement poétique à identifier. De cette enquête sont ressortis les mots, liberté, poésie, partage. De fait, le slam peut être appréhendé comme un projet poétique visant un moment de partage autour des mots en liberté. Par cette dernière formule, je fais référence à un autre mouvement, le futurisme, qui partage avec le slam une exigence d'instantanéité. En effet, une autre règle définitoire exige que le slam soit déclamé, en 3 à 5 minutes maximum, de façon à laisser la parole au plus grand nombre. Ces quelques règles et principes, s'agissant donc de déclamer un texte de son cru dans l'espace public, en un temps limité et sans accessoires de musique, ces quelques règles engendrent des effets particuliers, à commencer par des effets de condensation. Ainsi, le format de la scène peut aussi influer sur la mise en mots et sur la mise en jeu des mots. Je m'explique qu'il existe en France deux types de dispositifs, qui sont tous les deux appelés slam. Parfois, on trouve aussi la formule grand slam pour désigner le second type. Le premier étant la scène ouverte de slam, et le second, le tournoi, qui prend la forme d'une compétition de slam, où les poètes s'affrontent, le public étant pris à partie pour les départager. Donc on a un jury qui est désigné dans le public et qui met des notes aux poètes qui s'affrontent sur scène. Dans les deux cas, mais plus encore dans le second, dans le cas du tournoi, l'auditoire joue donc un rôle déterminant. Dans la performance, il est invité de fait, il doit être enrôlé dans le jeu. Il est invité à entrer dans la danse des mots. C'est là que réside précisément l'enjeu, le pacte que je qualifie de co-ludique, noué entre l'artiste et son public, au sein de cet espace de jeu et de partage autour des mots. Qu'il soit jeu ou joute, le slam repose sur la mise en œuvre de procédés créatifs et expressifs comme l'homophonie, la paronomase et d'autres effets sonores qui concourent à la claque originale. Tout slam, ça veut dire claquer. Qui concourent à l'émotion, voire au rire des auditeurs. Tous les mots et tous les jeux de mots sont permis. Ce sont parfois des frontières même des mots que les slameurs se jouent, multipliant mots valises, équivoques, calembours et autres tours. Alors la présente conférence m'amènera à envisager différentes formes de jeux de mots, appellation générique sur laquelle je reviendrai, dans le slam francophone, en nous intéressant notamment aux effets de ces jeux de mots en termes de créativité, d'expressivité et de musicalité, d'où mon sous-titre du méli-mélo à la mélodie. J'analyserai pour ce faire un premier texte de Sang d'encre, slameur lyonnais, que je vais vous faire écouter dans un instant, qui me semble révélateur de procédés récurrents, avant d'étudier 3 slams de Grand Corps Malade, emblématiques d'une rhétorique moderne, et 3 autres textes d'Ivy, qui est un slameur québécois, initiateur des soirées slam en réal. Je terminerai par l'évocation d'un slam de l'artiste allemand Bas Botcher, pionnier du slam berlinois, qui aime à se jouer des mots, à jouer avec, sur, sous, entre et outre les mots. Alors, je vais vous faire écouter dans un instant un premier exemple de Sang d'encre, ce slameur lyonnais. Mais je vais revenir d'abord sur le choix de ce blaze, qui dit blaze dit en fait pseudonyme de slameur non scène. Et il se trouve que dans le slam comme dans le rap, mais avec un enjeu différent, On peut dire co-ludique, c'est-à-dire connivencial et ludique, plutôt que cryptique. Parfois dans le slam, dans le rap, il y a une fonction cryptique. C'est moins le cas dans le slam. Le choix des pseudonymes répond en fait à une véritable quête esthétique pour ces troubadours des temps modernes. On témoigne des noms collectifs comme les slams timbanques à Limoges, Amslamgram à Chambéry, ou encore, c'est cet exemple que je vais développer, la tribu du verbe à Lyon, pour ne citer que cet échantillon. Donc vous voyez que la tribu du verbe, je l'ai indiqué sur cette diapo, s'écrit donc avec un T. Et on voit qu'en fait, il s'agit d'une sorte de palimpseste avec plusieurs strates. Le premier étant bien sûr l'attribut du sujet, qui est ici délexicalisé en attribut du verbe. Le second étant le tribut, au sens de contribution imposée par un État à un autre, par un peuple à un autre, en signe de dépendance. On voit aussi le lien avec tribun, qui n'aura pas échappé à des oreilles attentives, en tant que représentant de la plèbe, mais aussi orateur à l'éloquence puissante, directe et sachant s'adresser à la foule. Et c'est bien en effet une tribune que propose le slam, un espace d'échange autour des mots, visant à remettre la parole poétique au centre de la place publique, à populariser la poésie en la démocratisant. Le site du collectif, la tribu du verbe, explicite tous ces possibles sémantiques en ces termes. Donc je cite ici le site. Présent dans le slam lyonnais depuis ses débuts, janvier 2002, les tribuns trouvent leur inspiration dans l'air du temps ou dans le temps qu'on fiche en l'air. Et les slameurs de préciser leur identité en des termes qui mettent en valeur non seulement le homonyme que j'ai cité ou la paronomase entre verbe et verbe, mais qui recourent aussi à une figura etymologica, les attributs du verbe qui contribuent aux tribulations des verbes et distribuent le tribut de leur verbe en tribut. S'ajoutent ici les tribulations qui en disent long sur le nomadisme inhérent à ces nouveaux poètes. Sans d'encre, qui s'est à ce jour dissocié du collectif, vous le voyez ici sur cette image, souligne à travers son pseudonyme qui évoque en fait les blagues de rappeurs. Les pseudonymes de rappeurs jouent souvent sur le code écrit et oral avec la présence de majuscules. Ici, il resémantise bien sûr l'allocution « se faire un sans d'encre », l'encre étant en fait la manifestation et l'état premier d'une forme d'hémorragie lexico-verbale. Notons en passant que la liquidité est souvent associée à l'état oral dans le slam. On parle ainsi de flow, et slam qui peut être appréhendé finalement comme un changement d'état de la matière verbale, l'état solide correspondant aux mots glacés sur le papier, l'état liquide ou flow qui les libère lors d'une performance orale ou d'un enregistrement audio, et l'état gazeux à l'air qui sépare tout en les reliant l'artiste de ou à son public lors d'une scène live. J'emprunte ici cette métaphore à un slameur allemand que je vais citer tout à l'heure, il s'agit de Bas Butcher, il m'a proposé cette métaphore en entretien que je trouve tout à fait éloquente. Alors, je vais vous faire écouter un petit échantillon sonore de ce premier slameur, qui est un slameur lyonnais, donc sans encre.
En mêlée, dans le méli-mélo du maniement de mots, j'ai omis le délié et le stylo mine mes deux mains. Du coup, j'ai immolé le délidélé des monuments de lettres pour emmêler des lignes d'encre avec un minimum de litres. Mais à molly glier d'allier des lots de verre à l'au-delà, sur un lit de flot, je déverse mon au-delà. Et de là, j'adule en idolâtre mille lettres après millilitres comme un mélomane humilié, le ramolli de la mélodique.
Alors, on va s'arrêter là, vous pourrez éventuellement écouter la suite. Ce serait un peu long de vous faire écouter tous les textes en entier, c'est vraiment des petits échantillons. Alors, dans la lignée des grands rhétoriqueurs, les slameurs, donc les grands rhétoriqueurs sont ces poètes du XVe siècle qui s'exerçaient à composer des rimes léonines, couronnées, bâtelées, brisées, palabros, monorimes, etc. Ils étaient vraiment connus pour ces prouesses et on a pu montrer le lien des slameurs avec justement ces grands rhétoriqueurs. Dans la lignée de ces grands rhétoriqueurs, les slameurs ont tendance à privilégier la paronomase par rapport à la rime, préférant cet écho sonore multiple et délocalisé qui permet aussi de mettre en valeur une structure consonantique et par là de faire claquer les mots, selon l'acception première du verbe tout slam. Dans l'extrait que j'ai affiché ici, on voit là non seulement des rimes internes que j'ai mises en couleur, mélo, stylo par exemple, mais aussi des paronymes qui engendrent des rimes dites semi-équivoquées, comme par exemple lettres et litres, et d'autres rebonds sonores qui ne sont pas toujours localisés en position finale. On témoigne par exemple le couple emmêlé, emmiêlé, et la séquence déli-délé qui fait aussi écho au délié du verbe précédent, alors que déli annonce aussi des lignes par cette onomastique. Dans ce slam saturé en L et M, qui est une véritable prouesse d'élocution lors de la déclamation, les figures sonores semblent prédominer, mais elles sont doublées de métaphores comme celle dans Mieler les lignes, qui tentent à souligner la matérialité des mots, objets, matière ou médium du maniement. Alors rappelons qu'il s'agit là d'une vision du poète artisan qui renvoie aux origines même de la poésis. Et cette vision, il se trouve que les slameurs ont à cœur de colporter cette vision de la poésie lors des ateliers qu'ils animent auprès de publics divers et des scènes dites ouvertes qui leur permettent de donner corps à leurs mots. Ainsi, les mots et les mains sont associés au sein de l'espace scénique comme ils le sont déjà sur le papier. Je cite le stylo mime et deux mains. Et dans cet exemple, on voit qu'en matière d'équivoque, on a un jeu sur l'homophonie et aussi sur la frontière des mots, stylo mime, par rapport au verbe miner. Le slam apparaît alors comme un jeu sur les frontières entre écrit et oral. Les mots se fondent, se confondent, à tel point que le mélinello peut conduire à une véritable mélodie que le slameur Bouddha appelle musique des lettres, plutôt qu'à une salade de bruit, pour reprendre cette autre formule d'un slameur lyonnais, Marco DSL. Autre procédé tout à fait caractéristique, il s'agit du jeu des défigements. Vous allez comprendre à travers les exemples que je vais développer de quoi il s'agit. Il s'agit en fait de détourner ou de défiger des formules figées. Ce procédé étant parfois appelé à peu près, dans une certaine terminologie, formule qui me semble cependant péjorative, donc je ne reprends pas forcément à mon compte. Il s'agit en fait d'un procédé créatif dans les slameurs, juste à l'envi, comme dans cet exemple, toujours de sang d'encre, faisant serment d'hypocrite, baigné dans un ferment lexical, je me suis immunisé des manies de la dominante grammaticale. Entre dicton, contradiction, fission de dicton, contradiction, ma force de phrase n'a pas plus d'impact sur le papier que sur la fiction. Donc on voit ici qu'on a une double délexicalisation ou défigement avec serment d'Hippocrate, bien sûr, serment d'Hippocrite, et force de phrase qui fait référence bien sûr à la force de frappe. On a aussi des paronomases, contradiction, contradiction, contradiction. Et une métaphore filée autour de l'atome qui permet un écho sémantique soulignant l'impact supposé des mots dans le slam, rappelant au passage que les premiers slameurs s'affrontaient à coups de mots sur un ring. Les scènes slam ont pu être mises en scène ainsi, telles des boxeurs. Le jeu de mots est alors associé à un coup dans la lignée des punchlines chères aux rappeurs. Et le collectif parisien Uppercut a filé la métaphore jusqu'à l'adopter comme nom de scène, notamment au travers d'un spectacle qui s'intitule « Sur le ring », où les voix fusent et pulsent. De fait, lors des performances scéniques, on verra que la mimo-gestualité joue un rôle clé. On le verra notamment dans l'exemple de Bass Butcher, qui en fait permet de conforter le pacte coludique. Il s'agit de jouer ensemble avec les mots. Et les gestes permettent ici d'appuyer plus précisément certains jeux de mots. Je propose maintenant un deuxième exemple de slammer. Vous avez sans doute entendu parler de Concorde Malade, dont le blaze est conçu en fait comme un nom de Sioux, qui fait référence à l'accident qui a entravé sa mobilité. Et ce slammer a fait de certains de ses slams le lieu d'un récit autobiographique allégorique. Il a développé une posture que j'ai pu qualifier de confidence publique, puisqu'il parle beaucoup de lui et de cette mésaventure dans ses textes. Et ces textes, pour évoquer, voire narrer une expérience dramatique, n'en sont pas moins sublimés par un humour que le slammer cultive au détour de ses mots. Et cet humour s'insinue notamment dans le décalage entre l'attendu, le figé, et l'inédit du défigement, entre ce que Guiraud appelle le ludant et le ludé. Je vous donne par exemple ce premier exemple, la cerise sur le ghetto. Vous aurez reconnu la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est un premier exemple, mais je vais vous faire écouter un texte qui s'intitule « Les lignes de la main », peut-être que vous avez déjà entendu ce texte. C'est un slam scénique qui est resté d'abord inédit, on voyait des vidéos sur YouTube et il l'a intégré dans ses albums seulement en 2013. Il y relate sa rencontre avec une voyante en se jouant des expressions figées autour du corps.
Un certain soir d'incertitude, je suis allé voir une voyante. Prêt-moi l'arnaque et l'inquiétude, car la vision d'un monde est payante. C'est mon cœur qui frappe quand je sonne à la porte, je me sens tout gamin. Quand elle ouvre, me regarde, me sourit et m'escorte pour me lire les lignes de la main. Elle prend son pied en prenant mes mains, ses mains tenant mes doigts sont balèzes. Elle est à droite, j'ai deux mains gauches, c'est maintenant mon malaise.
Alors, à l'heure où certains déplorent le déni du calembour, je cite ici un article d'Alain Fagnon, forme la plus dévaluée des ressorts comiques, souvent reléguée au black calembar. Ce procédé qui consiste en fait à faire surgir un autre sens d'un énoncé équivoque, comme ici à droite en deux mots et à droite en un seul mot, semble remis au goût du jour par les slammers qui le manient avec brio, sans douter leur plaisir ni celui du public. Ce slam en est une bonne illustration. Un peu plus loin, on a cette phrase « ma ligne de virage, ma ligne de vipère ». De virage en vipère, le procédé est mis en relief par une redondance anaphorique, car le dessin scénique suppose un trait grossier afin que les spectateurs puissent le saisir au vol. Par exemple, Grand Corps Malade répète ici « elle est maligne, ma ligne ». Voilà, pour bien insister et que tout le monde puisse percevoir le jeu de mots. Grand Corps Malade, dans la lignée des rappeurs, use et abuse de l'homophonie, ainsi que d'une écriture qu'on peut qualifier de paronomastique, qui met ici en parallèle balèze et malaise, enrôlant son spectateur-auditeur dans cet espace coludique, au travers d'un humour verbal qui participe de son succès. Notons que le slam n'est pas sans lien avec le stand-up, et que le slammer a créé un spectacle intitulé « Rire en slam » avec l'humoriste Baptiste Le Caplin. Cette formule suggère que l'humour est ici au cœur, et peut-être au corps du slam, qui peut se conjuguer à d'autres arts de la scène, du moment que le jeu, dans tous les sens de ce terme, y occupe une place centrale. On peut aussi envisager le slam comme une forme actuelle de rhétorique, en considérant les cinq parties de celle-ci, à commencer par la memoria et l'action, la prestation féminine, qui est en fait la finalité, l'horizon du slam, mais aussi l'invention, la disposition et l'élocution qui sont mises en œuvre en amont lors de la jeunesse du slam. Alors, vous avez ici un premier exemple, j'ai oublié, que je vais simplement citer, mais que je n'aurai pas le temps de vous faire écouter. Il est basé sur l'anaphore systématique de cette formule, j'ai oublié, qu'on retrouve dans tous les vers, et il se caractérise par une disposition faussement erratique, aboutissant à une double chute, qui joue sur une double homophonie, que j'ai soulignée ici. À ce putain de texte, j'ai oublié de trouver une chute, comme un cascadeur qui saute d'un avion sans parachute. Mais chute, faut que je me taise, car maintenant c'est la fin. À vrai dire, pas tout à fait, car pour l'instant, j'ai encore faim. Alors, je m'excuse de ne pas avoir la voix de mon corps malade. On voit ici que la chute est annoncée en tant que telle par un procédé qui s'apparente à de l'antiphrase, puisqu'il déplore son absence, l'absence de chute, alors même qu'il la prépare. Et il se joue aussi de la règle selon laquelle la brièveté est de mise dans le slam, comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Ici, on voit que le jeu de mots crée le rebond et permet de différer la véritable péroraison qui intervient un peu plus tard. Le jeu de mots revêt aussi une fonction cataphorique, il tient l'auditeur en haleine. On retrouve un tel rebond homophonique dans les lignes de la main, dont je vous ai fait écouter au début tout à l'heure. Fini de lire dans les mains, maintenant je préfère serrer le poing, point à la ligne. On peut voir aussi l'art de l'élocution dans cet autre exemple que je vais vous faire écouter qui résonne comme une véritable prouesse verbale et qui peut s'entendre comme une sorte de démo de mots. Je cite mon corps malade qui dit que la langue française est tellement bien taillée pour ce genre de mots, c'est ce qu'il dit en guise de prolégomène. De fait, le logos, le verbe, est la matière première et il se fait ici de plus en plus malléable au fil d'un flot qui s'emballe pour l'occasion. Donc c'est ce texte-ci. Vous allez voir, c'est un texte très musical, la musique est d'Ibrahim Malouf. Cet album-ci est vraiment très musical, ce qui déroge en quelque sorte au rayon du slam, mais qui est le cas dans la plupart des albums de Grand Corps Malade.
J'ai mis des mots sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés, j'espérais bien me faire crier, j'ai mis des mots que j'ai criés, j'ai mis des mots dans vos oreilles, des émotions c'est pareil, dans vos théâtres et vos enceintes, j'ai mis des mots comme une empreinte, j'ai mis des mots un peu partout, redistribués au bout partout, je sais même plus où je les ai mis, j'ai mis des mots, j'ai pas gêné, j'ai mis des mots, mais jamais trop, dans un métro, dans un micro, j'ai mis des mots, j'ai mis des mots, des mots, des mots rétrous, j'ai mis des mots pour compenser, j'ai pas le destin compensé, mais en passant sur le passé, on peut le tracer sans effacer, j'ai mis des mots, j'ai pas des dits, j'ai mis des dos, j'ai mis des mots entiers, pas des demi, j'ai mis des mots de Saint-Denis, j'ai mis des mots que j'ai trouvés, j'ai tenté de les faire prouver, sans entraver, rien à trouver, sans embâter, tout à trouver, les mots.
Les mots vont vite, faut qu'on s'accroche et puis le tempo à l'accroche. De fait, dans ce slam, le rythme s'avère prégnant, proche du staccato, du fait d'une majorité de mots monosyllabiques qui sont nés en fait de la contrainte d'une variation sur les syllabes mi et mo. On voit dans plusieurs exemples, par exemple, j'ai mis des mots, j'ai pas mes dits, j'ai mis des do, j'ai mis des mi. La mélodie des mots se trouve, pour le coup, vraiment mise en avant, le jeu sur les notes tendant à attirer l'attention sur la musicalité intrinsèque au texte. Et quand la musique accompagne des mots petits comme du champagne, du pétillement à l'effervescence ressort l'envie de faire claquer les mots pour mieux leur donner vie en leur donnant voix. J'ai mis des mots dans tous les sens, à l'envers, à l'effervescence. D'ailleurs, on entend ici le sens, hein, cette question du sens. À n'en pas douter, le slammer a trouvé son style à la croisée des registres selon la rhétorique aristotélicienne. Or, ce style s'avère créatif non seulement dans les jeux de mots mis en œuvre, dans l'invention, la disposition et l'élocution verbale, mais aussi dans la rythmique de l'action. La créativité prend donc dans le slam des formes originales et diverses, dont je vais vous donner un autre aperçu sonore avec ce troisième dans le slammer qui s'appelle Ivy. Et comme vous l'avez compris, comme je l'ai déjà dit peut-être, il est en fait québécois, il vient de Montréal. C'est l'un des initiateurs des soirées Slam Montréal. Et on voit ici déjà dans l'intitulé de ces soirées qu'il aime les mots valises, les amalgames mexicaux, puisqu'il a aussi intitulé l'un de ses albums Slamérica. On voit aussi dans certains de ses titres à nouveau des amalgames comme ça lexicaux, par exemple immigrant slam, qui bien sûr condense immigrant et grand slam. On désigne par grand slam la forme de tournoi. Alors je vais vous faire écouter ce premier texte, Dire, qui en fait se présente comme un prologue de cet album Slamérica et qu'on peut interpréter comme une sorte de manifeste poétique, puisqu'il traite des jeux et des enjeux du slam, du moins du slam d'Ivy, ce slam-là. Donc vous allez voir que musicalement, c'est tout autre chose, hein, il a un environnement musical assez différent, et qui par ailleurs est propre à cet exemple. Des alcooliques unanimes. On a aussi l'usage des majuscules qui confère finalement une valeur iconique à ces formes néologiques. Je cite un auteur qui s'appelle Rifater et qui s'est intéressé à la poétique du néologisme, qui a souligné qu'à son contenu sémantique s'ajoute une valeur iconique. Il, donc il parle du néologisme, semble être une extension au-delà du domaine des signifiants possibles et comme l'image des bornes franchies. Le langage littéralement se surpasse. Donc je crois qu'on a ici de bons exemples de ces mots finalement qui sont des créations et qui permettent d'illustrer le langage qui se surpasse. Avec par exemple les verbes d'étape de conjugaison, formule qui fait se superposer trois formons, comme tout à l'heure l'attribut du verbe, enfin on voit qu'il y en avait encore plus. Hein. On a ici verbe d'état, table de conjugaison et aussi étable. On a d'autres exemples qui soulignent aussi la prégnance du sonore dans le slam, par exemple Amstram grammatical, qui fait référence à la comptine que vous connaissez. Et entre autres procédés typographiques, puisqu'ici la typographie joue vraiment un rôle important, comme on le voit à l'écran. On a donc des procédés qui permettent de contribuer à cet effet de palimpseste. Par exemple, la présence de notes de bas de page, on en voit ici une sur la gauche. Donc le texte dit « s'enlacer, c'est pas assez, c'est si bon, c'est cité » en un seul mot. Et la note précise « s'enlacer, c'est pas assez, c'est si bon, c'est cité » en trois mots. Donc on voit que finalement un tel procédé permet de ne pas trancher entre plusieurs graphies possibles et de mettre en relief graphiquement l'équivoque, les mots cachés sous les mots en palimpseste. Alors, un autre exemple, qui sera le deuxième exemple de ce slammer, il s'intitule « Va faire ta guerre ». On y trouve aussi de nombreux amalgames lexicaux, dans un tout autre registre, puisqu'il s'agit ici d'illustrer la portée polémique, voire politique du néologisme, qui peut avoir valeur de coup de poing. Ce texte a été composé par Ivy en 2011 dans le cadre d'un projet intitulé « Partenaires pour la paix » pour Amnesty International, et le clip met en évidence le recours à des tirés, vous allez le voir, dans les amalgames. Donc je vais vous montrer ce clip parce qu'il est vraiment intéressant typographiquement.
Ça fait des années que je t'observe. C'est pas bien difficile. Les yeux, les oreilles, il aurait fallu qu'on les crève pour ignorer ton petit jeu. Depuis le temps que tu nous endors, monsieur le marchand d'armes mensonges de sécurité, quand tu rêves, volver un nouveau demain, sans sexe comme les anges, sans âme comme ces engins que t'achètes sans appel d'offres, quel effronté tu fais. Monsieur le ministre de l'indécence nationale et du port d'armes, t'as pas honte, croiser le fer, semer les feux de l'enfer pour satisfaire tes amis et les terres. Toi, tu n'as que faire des besoins des plus humbles de la société. C'est clair, on aurait pu s'en douter. Un sauvage de ton espèce n'éprouve ni tendresse pour les démunis, à moins que ça ne soit des munitions.
Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, du coup, c'est un slam vraiment désenchanté hein, au vu du sujet. Vous avez remarqué d'ailleurs que Ivy flirte souvent avec la chanson. Hein. Il est assez fréquent qu'il ait un refrain chanté, par exemple, dans certains de ses slams. Alors, j'ai choisi ce slam pour la présence de ces amalgames, hein, il s'agit de mots valises ici, on voit que finalement la syllabe homophone qui permet la fusion est mise en relief par la typographie qui isole cette syllabe centrale, on le voit ici dans le clip dont j'ai fait une copie d'écran, par exemple pour arme-mensonge de arme-mensonge. Il s'agit en fait de mots-monstres, formule que j'emprunte à Anne Grésillon qui a beaucoup écrit sur le mot valise. Il s'agit d'une hydre à trois têtes, d'une certaine façon. Ici, on voit que cette syllabe mensonge se trouve mise en valeur par le codexte en amont, avec l'usage polysémique du verbe endormir. Quant au deuxième néologisme, voilà, je les ai répertoriés ici, on peut dire que finalement, c'est à partir du verbe rêver, qui est annoncé par un rejet de songe dans la manière précédente. Rêve se trouve alors transformé en revolver dans la typographie et la pause marquée à l'oral. Montre l'hybridité. On peut aussi renvoyer au latin revolvo qui signifie en fait ramener en arrière, dérouler. Le troisième amalgame, amilitaire, préfigure le cinquième, amissile, qui fait clairement écho morphologiquement puisqu'ils sont basés sur le même schéma. Quant au quatrième, démunition, il est annoncé par démunis qui figure dans le texte amont et qui se trouve allongé morphologiquement et de ce fait resémantisé. On voit qu'il y a comme ça des petits indices dans le texte, en général dans ce qui précède, qui permettent aussi à l'auditeur, voire ici à l'internaute, de mieux décoder les jeux de mots. L'ensemble de ces créations constitue une chaîne néologique et isotopique autour des armes, tel le lièvre, d'où cette image aussi, Ivy signifiant le lièvre, répondant à une esthétique oxymorique qui vise à dénoncer les paradoxes, puisque la fusion autour d'une syllabe commune rend l'opposition sémantique d'autant plus criante, par exemple entre ami et militaire, ou ami et missile, ou encore entre raid et revolver. Notons d'abord que le sens de lecture du clip montre que finalement, vous avez vu que les lignes apparaissent à l'écran dans le sens inverse, de bas en haut, ce qui peut être interprété comme la dénonciation d'un monde à l'envers. Le clip ici, comme la gestualité associée à l'interprétation lors d'une performance, constitue un environnement intersémiotique pour le jeu de mots qui prend sens dans ce contexte et associé au co-texte qui s'affiche à l'écran. Dans un mail, Ivy nous a expliqué son utilisation assez systématique du mot valise, qu'il qualifie d'image sonore. C'est une figure d'oralité, a-t-il précisé, le but est double, relancer l'intérêt de l'auditeur et savoir du même coup s'il écoute bien. Propos réflexif qui corrobore l'ancrage dans un code essentiellement oral, exception faite ici des titres et des clips, et aussi la fonction fatigue, voire interpellative du mot valise. En attirant l'attention, qu'il s'agisse de capter le regard comme ici ou de faire tendre l'oreille sur scène, le néologisme déconstruit les évidences, les a priori, pour mieux dénoncer et interroger la société contemporaine. Il fonctionne en fait comme un mot emblème, tel les titres immigrant slam ou encore slam élica, qui disent aussi le nomadisme inhérent au slam. Je cite à nouveau Rifater, le néologisme littéraire, loin d'être arbitraire, loin d'être un corps étranger dans la phrase, est le signifiant le plus motivé qu'on puisse trouver dans un texte. Il a toujours une double, multiple appartenance. Sa fonction est donc de réunir ou de condenser en soi les caractéristiques dominantes du texte. Je crois qu'ici, on est vraiment au cœur du sujet et au cœur de cette fonction du néologisme. Alors, j'ai ici un troisième exemple d'Ivy, toujours, qui s'intitule « Merci ». Et donc, j'ai déjà pu énoncer que, bien sûr, Ivy signifie le lierre et qu'on retrouve de fait dans l'esthétique de ce poète une forme, un travail sur les enchaînements lexicaux. On va voir que l'analyse de ce texte révèle la prégnance de ce que j'appelle Molière, à savoir des mots qui s'enchaînent phonologiquement à la façon des rondes, des comptines d'antan. Vous connaissez la petite comptine, chapeau de paille, 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 paillasson, etc. Et ici, on retrouve le même principe dont témoigne ce refrain, voilà, que j'affiche, avec une structure emblématique, tout en ayant d'une certaine façon un caractère autoréflexif, puisqu'il est question dans ce texte aussi de chaîne. Alors, je vous montre aussi le clip de Merci.
Merci à ton cœur, et n'enchaîne rien, s'enchaîne à jeter.
s'enchaîne, je t'aime.
J'ai affiché ici ce qui s'apparente à un refrain qui est nettement chanté, vous l'avez entendu, puisque en fait on voit qu'il y a un jeu sur l'axe syntagmatique avec finalement une structure qui illustre parfaitement le jeu de mots que Giraud appelle par enchaînement. De fait, on observe que les mots s'enchaînent, qu'ils soient littéralement repris d'un vers à l'autre, comme chemin ou cœur, ou alors bien qu'ils soient dérivés phonologiquement par ajout d'une syllabe, comme elle, veille, veille, suis, suivrai, ou à l'inverse par troncation, comme pour payer, paix, tranquille, il, ce qui amène en l'occurrence à une sorte de chute, la déclaration finale étant mise en relief par la structure anaphorique. La phrase suivante réserve, je l'ai affichée aussi ici, une belle surprise finalement dans la transcription avec un jeu sur le rapport graphie-phonie, puisqu'on a merci pour l'amour avec un grand M, écrit avec le verbe aimer. On voit que Albi se joue de nos attentes qui se plaît à déjouer, comme en témoigne encore ce détournement que j'appelle phraséologique, vous l'avez entendu aussi dans l'extrait que je vous ai fait écouter, pour le meilleur et pour le pour, au lieu de pour le pire. On voit que le poète brouille les frontières des mots pour en laisser entendre d'autres en palimpseste sonore, par exemple « expresso » du lit, on entend bien sûr « expresso ». L'ensemble de ces mots liés exemplifie à merveille ce que j'ai pu analyser comme une esthétique du ricochet, du rebond, le texte progressant finalement par rebonds successifs, tout en laissant au lecteur-auditeur, selon le médium envisagé, le soin ou le jeu de saisir précisément la balle rebond. Je vous propose maintenant de voir comment cette esthétique prend forme à travers une autre langue française, en l'occurrence l'allemand, avec l'exemple de Bas Botcher, qui est aussi, donc je vous disais qu'Ivy est un des pionniers du slam à Montréal, puisqu'il est le créateur des premières scènes slam, qui sont toujours d'actualité, les soirées slam Montréal, mais Bas Botcher est l'initiateur aussi, ou l'un des Berlinois qui ont initié le slam à Berlin. Et donc j'ai pu avoir de multiples entretiens avec lui, donc que j'ai regroupé dans ce que j'appelle Epislam. Et il s'agit ici d'une enquête, enfin d'un questionnaire que je lui ai soumis par mail, qui porte précisément sur les jeux de mots, et dont je vous livre ici certaines de ses réponses. Alors il les a faites en anglais parce qu'il n'est pas très à l'aise en français et que je ne suis pas germaniste, donc pour le coup il a été gentil de m'écrire en anglais. Alors, il aime beaucoup, je vais traduire en même temps et commenter ce qu'il dit. Alors, il insiste beaucoup sur l'idée qu'un jeu de mots doit combiner les enjeux sémantiques et sonores, c'est la distinction qu'il a énoncée. Et il aime en effet l'idée des mots marathons, il appelle ça comme ça, le mot marathon, que je ne dirai pas ici, mais en disant que c'est un merveilleux défi de trouver des mots de 4 syllabes ou plus, avec un sens qui convienne, hein, qui fonctionne, qui match, on le dit aussi maintenant en français. Et il précise que l'allemand se prête bien, selon lui, à toutes les combinaisons possibles, de fait, aux amalgames, en quelque sorte. Hein. Il dit que l'on peut combiner les mots à l'infini en allemand, et qu'il y a des mots marathons comme celui-ci, qu'il aime aussi bien échanger les syllabes, hein, comme dans l'exemple tout à l'heure que j'ai cité de la métathèse, attentat rhétoriste pour attentat terroriste. Lui, il cite en allemand « tag, Traum ». Pardonnez mon accent, je ne suis pas germaniste. Les mots valises sont d'après lui les plus réussis s'ils révèlent un troisième sens qui s'ajoute au signifié de leurs deux constituants. Il aime bien quand donc il y a par exemple ici, il cite cet exemple de bloc à deux. Il semble d'ailleurs opposé à l'idée d'accentuer typographiquement les jeux de mots, ce qu'on a vu par exemple chez Ivy. Lui, a priori, il refuse de le faire, mais il le fait cependant dans ce que j'appelle partition textuelle, qu'il a pu me transmettre hein, pour que je puisse analyser plus précisément, mais qui n'est pas forcément destiné à une diffusion sous une forme publiée. En fait, il souligne l'importance du jeu de décryptage, insistant sur l'idée que c'est à l'auteur-spectateur d'investir l'espace poludique, que j'ai pu développer en termes d'auditeur in poema pour bien sûr faire écho à l'illustre lecteur in fabula. Ici, il le formule en ces termes. Je suis convaincue que c'est partie intégrante du plaisir de détecter les jeux de mots et de les décoder, de les décrypter quand on les rencontre. Sur scène, en revanche, il précise, qu'il a volontiers recours aux ressources vocales et gestuelles pour accentuer certains jeux de mots et certaines équivoques. Donc il dit que dans ses performances, cependant, il utilise sa voix pour accentuer certaines unités ou certaines sonorités, voyelles, etc. Et il dit que le double sens peut parfois apparaître quand on répète le même mot avec différentes voix ou avec des pauses ou encore des gestes. Alors de fait, on va voir que quand il interprète le texte que je vais vous faire écouter, ou en tout cas dont je vais vous montrer un enregistrement vidéo, le public est en fait mis à contribution pour scander les syllabes tic et tac, et que ce public est en fait guidé par la gestuelle du slammer, digne d'un chef d'orchestre. Donc on va voir que ce texte, qui s'intitule en fait Tactique, est vraiment basé sur l'alternance de ces syllabes, mise en valeur dans des mots qu'il a sélectionnés sur cette base-là, avec cette contrainte-là. Alors pardonnez le son, en fait le son n'est pas très bon parce qu'il s'agit d'un enregistrement de ma part, avec une caméra dont le micro était interne, hein. Je n'avais pas de micro externe, c'était justement pour les besoins de ma thèse. Donc le son est plus pro.
Die Seite, die linke Seite, eben kann man hier so stimmt. Die linke Seite gibt mir einen Tag zu geben und die rechte bitte einen Tick. Ich versuche einen Text zu machen, der reimt sich auf das Tag und der reimt sich auf das Tick. Okay, so weiß ich es. Schnick, schnack, schick, ich nehm im Tag der elektronischer Musik. Und auf dem Sofa so geknackt, dass mich kein Mädchen mehr bewegt. Wie lange es sie nicht vertragt? Schon quasi ein Gewicht, vielleicht von neuem Mut gepackt. Es hat kein Zweck, es ist verzwickt. Ich merke eine Denkgefahr, was passiert, weil auch geschickt bin ich allein. Der Kontakt zu anderen Welten soll verflixt, dann zerfallen. Zack, dann umschlacht der Augenblick. Indem ich frage, ob ich was über du verbind. Im Geschäft bin ich im Praktikum, im Geschäft bin mit einer Degen. Die Musik wird ein Getrack, aber kenne ich den Trick. Ich mach den Knack und Spack.
Ah, je vais m'arrêter là, je montre souvent cette vidéo pour illustrer l'importance du geste, surtout dans le slam. Hein. Et je crois qu'on y est d'autant plus sensible quand on ne comprend pas, quand on n'a pas accès au sens. Hein. Si vous n'êtes pas germaniste, je crois que vous avez été particulièrement sensible, comme je l'ai été moi, quand j'ai été dans cet amphithéâtre, qui était à l'université Stendhal de Grenoble. Et je crois qu'une partie du public, justement, n'était pas germaniste, hein, et que c'était d'autant plus intéressant dans ce contexte-là de voir que le texte fonctionnait malgré tout. Alors on peut dire ici que l'artiste joue avec les mots plutôt que sur les mots, selon la distinction établie par Biro. Il a choisi donc un corpus de mots qui comprennent ces deux syllabes en position finale. Et sa gestuelle fonctionne bien sûr comme un appui prosodique, marquant le rythme binaire de la déclamation, mais aussi comme un appel à la connivence du public. Puisque on voit que parfois je fais des signes comme ça qui ont clairement une fonction phatique, hein, qui veulent dire finalement je ne vous entends pas, participez davantage. Donc un appel à la connivence du public qui se trouve donc enrôlé dans le jeu, dans la performance. Il s'ensuit une sorte de mécanique plaquée sur du vivant, pour paraphraser Bergson. Mécanique qui appelle sinon le rire, du moins la complicité active du public. Celui-ci va partir en deux groupes, comme il l'explique au début, selon la répartition géographique dans la salle. Devant scander à tour de rôle les syllabes tac et tic, le public devient ainsi partie intégrante du jeu. Et il contribue alors à une créativité multimodale qui prend appui non seulement sur les constituants lexicaux du texte, mais aussi sur des éléments vocaux et gestuels mis en œuvre dans le contexte de la performance. Alors, on peut dire aussi que ce slam de Bas Bridger, tactique, peut être lu ou entendu comme auto-réflexif, là encore, puisqu'à une oreille attentive, il résonne d'une certaine façon comme un slam sur le slam. Il est basé sur une tactique sonore, un tic-tac central, qui peut être interprété, du moins par des oreilles francophones, comme le rappel de l'un des traits définitoires du slam, même de deux traits définitoires du slam, puisqu'il s'agit d'une parole rythmée dans un temps compté. Et je cite ici Nietzsche, alors il est question de la prière, hein, on est quand même assez éloigné, mais je trouve que c'est intéressant. Il insiste sur cette idée que le rythme devait permettre d'imprimer plus profondément dans les yeux une requête humaine. Une fois que l'on eut remarqué que l'homme gardait plus facilement en mémoire un vers qu'un discours libre, de la même manière, on pensait se faire entendre de bien plus loin grâce au tic-tac rythmique. La prière rythmée semblait s'approcher davantage de l'oreille des dieux. Donc on a ici une idée très importante qui est celle aussi que le rythme permet de favoriser la fonction mémorielle. Chose importante dans le slam puisque les slameurs, à 95%, mémorisent leurs textes. Ils les récitent, ils les déclament. Très peu d'entre eux ont le texte écrit sous les mains. Donc ça fait vraiment partie sous la main. Et ça fait vraiment partie du jeu aussi. Hein. Alors pour avoir assisté à plusieurs des performances de Bas Bridger, j'ai pu constater que ce texte tactique fonctionne bien, au sens où le public investit l'espace coludique et le manifeste par un feedback enthousiaste, y compris dans un contexte francophone exolingue. Si dans mes précédentes études, j'ai pu souligner l'importance de la matrice que j'ai pu appeler phraséologique avec tous les défigements dont je vous ai donné des exemples, et aussi de l'amalgamation lexicale avec les exemples de mots valises pour des raisons de rythme et de condensation des effets sonores, cette communication m'amène à distinguer une matrice onomatopéique avec des effets potentiellement translingues. En effet, le slam est par essence nomade et hospitalier, il se prête à tous les jeux de mots et de sonorités, il devient alors un lieu de rencontre, voire une fusion lexicale. Et s'il nous fallait répondre en guise de conclusion à notre propre enquête intitulée « Le slam en un mot », je répondrais aujourd'hui qu'il est jeu, J-E-U, et ce dans tous les sens du terme, à la fois au sens de marge, avoir du jeu, au sens d'interprétation, de l'anglais play, et au sens premier d'un espace ludique, ou que j'appelle co-ludique pour insister sur la connivence, qui combine finalement le play et le game. En effet, certains chercheurs font cette distinction entre le play, qui désigne le jeu en général, du latin, du grec paidia, c'est l'équivalent du grec paidia, qui le distingue du game, ou jeu à règles, qui correspondrait plutôt au latin ludus. Donc on a aussi ici, bien sûr, un jeu qui suppose la complicité du public et un jeu qui prend appui sur des ressources mimo-gestuelles pour souligner les enjeux lexicaux. Il s'agit là d'une forme originale de créativité multimodale, les mots prenant corps littéralement sur scène. Le jeu de mots, parfois souligné de jeu de main, s'impose dès lors comme un ressort central de la poétique du slam, ce qui m'autorise un ultime clin d'œil à l'histoire littéraire. Il s'agit en l'occurrence du surréalisme avec cette citation d'André Breton. On comprenne bien que nous disons jeu de mots quand ce sont nos plus sûres raisons d'être qui sont en jeu. Les mots du reste ont fini de jouer, les mots font l'amour. Et c'est un extrait de la revue Littérature paru en 1922. Voilà, je vous remercie pour votre attention.